C'est la deuxième heure de ce 1150e Sweet Home Chicago avec Nico Wayne Toussaint.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Comment ça va? Ouais, comment ça va depuis, il n'y a pas très très longtemps, on t'a vu aller au Subok, c'était il y a quelques jours, en pleine forme et en octet, c'était formidable, hein. Franchement, bravo et merci encore pour ces grands moments que tu nous fais vivre, entre autres au Subok, mais partout où tu te produis finalement.
Ben merci, tu sais, c'est un bonheur en fait d'être sur scène, de rencontrer le public, de faire ça avec mes musiciens et mon groupe, c'est des amis, on est en camion ensemble... On discute, on dort, on prend les pauses ensemble. C'est quelque chose qui nous soude et on arrive, tu vois, au Subok après presque 17 heures sur la route depuis qu'on est parti la veille. Et on est heureux d'être ensemble, en fait. Voilà.
Et, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, effectivement, qui seraient capables de faire Pau, Bordeaux, direct Calais, et puis ensuite, le lendemain, Coville en Normandie, et redescendre Bordeaux, Pau, pour le terminus, effectivement, ça représente énormément de kilomètres. Bon, je veux dire, heureusement qu'en ce moment, le gasoil n'est pas trop cher, Alors, ce genre de choses, voilà, ce genre d'expérience, les tournées, la route, c'est quelque chose que tu connais depuis fort longtemps. Moi, ce que je te proposerais dans un tout premier temps d'interview, si tu veux bien, ce serait nous raconter comment tu en es venu à la musique pour les quelques rares auditeurs ou les tout jeunes qui ne connaissent pas encore ton parcours. C'est ton papa qui t'avait mis le pied à l'étrier étant tout gamin, je crois.
Un peu, en quelque sorte. Moi, je suis né dans une famille de musiciens où la musique n'était pas non plus un métier. On n'en vivait pas dans ma famille. Mais mon père était journaliste. Mais il y a toujours eu de la musique. Ma grand-mère était prof de piano, elle. Et mon père jouait du piano. Il y a toujours eu des pianos à la maison. Mon père était fou de la musique cajun de Louisiane. Et donc, il a monté des groupes. Moi, j'étais tout petit, que je me souviens assister à des répétitions à la maison, dans le salon, tout ça. Donc, il y a eu toujours cet environnement musical et puis cette présence de la musique live jouée avec des instruments chez moi. Et c'était aussi autour de la chanson française. Mon père, pour gagner quelques sous, quand il habitait à Montmartre, il faisait le tour des restaurants, le lapin agile et tous les trucs qu'il y avait. Et il faisait un petit set comme ça dans les années 50. Alors, j'ai toujours grandi avec cette histoire. Et ensuite, ben voilà, t'allais dire pourquoi le blues. Eh bien, il n'y a pas une grande différence entre une grande passerelle à franchir entre la musique cajun et le blues. Et mon père, qui était un fils de l'après-guerre, il a grandi avec le jazz et autant Lionel Hampton que Bill Bronzy, tu vois. Et donc, il a pu voir Bill Bronzy en 50 ou en 51 à la salle Playel à Paris. Donc et pourtant, pour lui, c'était du negro spiritual ou c'était du jazz à l'époque. La catégorie blues n'existait pas, mais c'était de la musique. Il avait des disques. Par la suite, il y avait des disques de Johnny Hooker. Et il y a eu un flash dans mon histoire, c'est que mon père avait, mais je ne le savais pas, acheté un disque de Muddy Waters qui s'appelle Hard Again. Et donc, il y avait ce disque dans la discothèque, qui était un disque très spécial dans les discographies de Muddy Waters, puisqu'il a été produit par Johnny Winter. Et c'est un disque où Muddy Waters fait un peu son dernier comeback, un peu en force. Donc c'est un son très musclé, très bordélique. C'est James Cotton qui est à l'harmonica et ça dégueule partout. On sent que c'est très très vivant comme enregistrement. Et à l'époque, le premier titre, c'était Manish Boy et ça passait à la télé avec une pub de Levis. Et donc on a un copain qui est passé à la maison, il a regardé la discothèque de mon père, il a sorti ce disque et il l'a laissé comme ça. Il a dit « Ah, t'as ça, Pierre !» Et puis il l'a laissé comme ça. Et moi, j'ai pris le disque, j'avais 15 ans, et j'ai vu cette photo de ce black-là qui rigole, qui est débonnaire comme ça. Et j'ai posé le vraiment sans savoir du tout ce que j'allais trouver, j'ai posé ça dans ma chambre. Et le premier morceau, Manish Boy, je me suis purée, mais c'est la chanson de la pub. Et d'un seul coup, je me suis engouffré dans Muddy Waters, dans ce son. Et l'adolescent que j'étais, je sais pas, ça m'a fait un déclic hallucinant, quoi. Et à partir de là, j'ai mordu à l'hameçon et j'ai plus jamais lâché.
Exactement, cet album Hard Again sorti en 77 sous la houlette de Johnny Winter sur le label Blue Sky, qui en a influencé plus d'un. Je me souviens d'un autre artiste interviewé il y a quelques mois qui évoquait ce même disque précisément, donc un garçon qui était guitariste de Johnny Hallyday pendant des années, je ne sais pas si tu vois de qui je parle, et qui lui aussi a été un peu biberonné à toutes ces musiques-là. Tu évoquais Bill Bronzy avec sa première venue, je crois me souvenir que c'était en 1951 précisément, sous la houlette d'un certain Jacques Morgantini.
Mais oui, c'est drôle.
Garçon Jacques.
C'est drôle parce qu'après j'ai rencontré Jacques et étant palois et donc c'était drôle, mon père n'était déjà plus là mais je trouvais que la boucle était un peu bouclée quoi, c'était drôle.
Ouais. Alors, j'avais pas prévu de te poser de questions sur Jacques, mais effectivement, tu évoques Bill Bronzy et Johnny Hooker, qui a enregistré un album entier assis les fesses sur la cheminée de Jacques Morgantini, à côté de Pau, dans la petite commune de Gand. Toi qui as connu Jacques Morgantini, et avec un tout petit peu de recul, qu'est-ce que tu penses que ce garçon a fait pour le blues en France, Nico?
Jacques a fait beaucoup pour le blues en France, dans la mesure où, à travers le réseau des hot clubs, il a mis sur la route tout un tas d'artistes américain et il a envoyé des artistes américains dans des bourgades françaises. Et bon, Jacques Morgantini n'a pas été le seul à le faire. Je discutais avec Philippe Lejeune qui me parlait de Memphis Slim et qu'il avait vu Memphis Slim dans des villages comme ça, plus ou moins dans des foyers municipaux, des scènes pas très reluisantes, mais c'était le circuit et le circuit du Chicago Blues Festival. C'était un peu comme le cercle Zavatta, il fait des haltes comme ça sur les places publiques et je crois qu'on doit ça beaucoup ou en partie à Jacques Morgantini. Je sais qu'il est pas à l'origine du Chicago Blues Festival, mais il y avait beaucoup d'artistes qui sont passés par Black & Blue et qui ont été produits par Jacques, qui se sont retrouvés sur ce circuit. Et donc ça, je trouve ça magique. Je pense aussi que c'est magique les conditions d'enregistrement de tout un tas de disques qui nous sont parvenus avant que ce soit des disques en studio. C'était les lives, comme l'a très bien raconté Jacques dans son DVD avec Jacques Gasser. C'était des lives improbables dans des clubs devant très peu de personnes avant que le club ouvre réellement. Des conditions d'enregistrement qui, moi, m'ont énormément nourri. En fait, on nourrit mon fantasme. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec, non pas Guillaume Tricard, mais son père, Didier Tricard, de certaines conditions d'enregistrement, notamment du Alone on Acoustic de Buddy Guy Junior Wells, qui c'est lui qui a produit, ou alors de l'album de Melvin Taylor, I Play the Blues for You, où ces artistes étaient en tournée en France et en Europe, et à l'occasion d'une journée off, on rentrait en studio et on enregistrait.
Et c'est le genre de choses aussi qu'on peut entendre dans la bouche de Jean-Pierre Vignola, qui fait l'objet de plusieurs interviews dans cette même émission, Sweet Home Chicago, et qui nous livre aussi tous ses souvenirs de tournée, lui qui a été chauffeur-livreur, également programmateur, producteur, à la production de toutes ces tournées depuis plus de 50 ans, et qui raconte la même chose. Ils ont réussi à les emmener dans des bourgades, dans des petites villes, dans des endroits où jamais on pouvait entendre de musique live. Et c'est aussi grâce à ces gens-là. Alors j'évoquais Jacques Morgantini, on peut parler bien sûr de sa femme Marcel et de leur fils qui enregistrait à Chicago dans les années 70 pour le label
Luc, LPR. Bien sûr, ouais.
Et voilà, et tout ça, ça fait partie aussi de tes initiations. Et ensuite, ça t'a donné, j'ai l'impression, hein, tu vas me démentir peut-être, que ça t'a donné la bougeotte. Tu es parti plusieurs fois aux États-Unis, tu y as même vécu, Nico.
Oui, bien sûr. Alors, ce ne sont pas ces disques-là qui m'ont donné la bougeotte, mais c'est aussi un concours de circonstances. Mon parrain est américain, il habitait à Minneapolis. Et à partir de l'âge de 19 ans, je lui ai rendu visite à l'occasion de séjours plus ou moins longs, de un mois et demi souvent, d'abord pour prendre des cours d'anglais dans une université, puis ensuite pour travailler dans un club de blues qui était à l'époque tenu par Mickey Mulvihill, qui était rien de moins que l'agent de Luther Allison dans le Midwest. Et donc c'est grâce à Mickey que j'ai pu jouer avec Luther Allison au Petit Journal de Montparnasse en 1994. Et à partir du moment où j'ai vu le blues dans les clubs américains et que j'ai pu participer à des jams aussi, notamment au Blues Saloon, là où travaillait le club que tenait Mickey, je suis revenu avec la conviction que quelque chose existait, était toujours en vie, n'était pas seulement sur les disques. Et si en France, ben c'était un peu, ça nous semblait très éloigné, aux États-Unis, c'était le quotidien. On ouvrait le journal et il y avait Gary Primitch, il y avait William Clark, il y avait tous les plus grands. Alors quand on était à Chicago, c'était un festival tous les jours. Et ça, c'était pour de vrai. Et à partir de là, je me suis dit, bon, c'est là que je veux être fourré le plus de temps possible. Au contact.
Cool, parce qu'on va rappeler qu'en 1994, tu parles de cette première jam rencontre avec Luther Allison. En 1994, tu as...
J'avais 21 ans.
21 ans en 1994. Donc tout jeune. Et là, tu fais tes premières jams. Et juste après, allez, en 97, c'est là que tu enregistres ton premier album. Mais il y avait déjà eu des cassettes, il y avait déjà des démos avant, je crois.
Oui, voilà. En fait, j'ai eu la chance. Tout ça, il y a eu plein de choses qui se sont passées en parallèle. Mon entrée à l'université, à la fac, ici à Pau. En même temps, aller aux États-Unis, commencer l'harmonica. J'ai commencé l'harmonica à 18 ans, en fait, au même moment où je suis arrivé à la fac de Pau. Il a fallu arriver à conjuguer cette passion dévorante de la musique avec l'obligation de réussir mes études. Donc ça, c'était un équilibre que par la suite, finalement, qui fait mon ADN, quoi. Je suis musicien, je suis prof de FLE, de français langue étrangère, j'ai été prof d'histoire, je suis parti en Guyane enseigner l'histoire en collège. Et quand j'ai pas l'un, en fait, l'autre me manque, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin maintenant, dans ma vie aujourd'hui, dans mon équilibre, dans mon régime alimentaire, j'ai besoin d'avoir ces deux sources. Alors, ça
Voilà,
prend beaucoup de
l'expression
temps.
musicale et puis le côté pédagogie, effectivement, le côté passeur, passeur de savoir et passeur de friandises et de curiosité, que ce soit effectivement pour le français langue étrangère ou pour la musique. Tu donnes également des cours d'harmonica?
Oui, aussi, ouais. J'aime beaucoup en fait la liberté totale que me permet la musique et la contrainte à laquelle me soumet un emploi journalier, un emploi de jour aussi, un emploi diurne, alors que la musique c'est généralement une activité nocturne. Et on vit pas, on rencontre pas les gens sur le même créneau quand on les rencontre le jour ou la nuit. On se tutoie, on se vouvoie. Enfin, ce sont la musique. Moi, j'ai mangé à la table de hauts dirigeants, de politiciens, et on se tutoie. Alors que si je les rencontre dans un tout autre registre, alors là, on sera tous pincés et ce sera du vous. Donc, et j'aime beaucoup jongler et sauter d'un monde à l'autre. Et voilà, ça me le permet.
Et ça, dans la vie, tu nous le montres et tu en parles et tu en témoignes. Et puis également, ça se voit et ça s'entend dans toute ta discographie. Si on revient à cet album, c'est si bon, ça s'appelait à l'époque Nico and Friends Blues Band. Et ensuite, tu t'es vite appelé Nico Wayne Toussaint. Une question qu'on doit te poser souvent, pourquoi Nico Wayne Toussaint? Pourquoi, en fait, voilà, Nicolas Toussaint, Nico Wayne Toussaint. Je ne me souviens pas t'avoir posé la question alors qu'on en doit être à la 397e interview ensemble.
Eh bien, en fait, je m'appelle Wayne. Dans mon état civil, c'est le prénom de mon parrain dont j'ai parlé tout à l'heure, mon parrain américain de Minneapolis. Et donc, c'est vraiment dans mon passeport. Quand j'ai eu mon premier album qui est sorti sur Dixie Frog, Philippe Langlois, c'était en 98, et Philippe Langlois m'a dit: Bon, c'est un disque que tu as enregistré en Amérique, il y a vraiment une touche très très américaine, c'est dommage Nicolas Toussaint, c'est dommage, ça manque un peu de relief. Et ma sœur m'a dit: Pourquoi tu dirais pas Nico Wayne Toussaint? Et je dis: Ah bah ouais, c'est vrai, c'est super, ça sonne bien. Nicolas, Nico Wayne, il y a le même nombre de syllabes. Et ça rend hommage en plus à la personne qui m'a vraiment permis de vivre toutes ces premières expériences, Wayne. Donc voilà.
On est en 1998, l'album s'appelle My Kind of Blues. Et je peux te citer une anecdote, je ne sais pas si tu avais su ça, mais on se souvient peut-être pour certains amateurs parisiens ou normands d'une toute petite boutique sur le Valois-Perret qui s'appelait Boogie, qui était en fait le lieu où Jean-Pierre Arniac et Jacques Perrin essayaient de ramasser quelques sous pour pouvoir parallèlement continuer à faire perdurer ce magazine qui s'appelle Soul Bag. Et Jean-Pierre Arniac m'a dit à une de mes visites là-bas: je voudrais te faire écouter un album, c'est super, il y a un Américain qui vient de sortir un disque d'enfer. Et il m'a sorti ton disque, Nico.
Ah oui.
Et Jean-Pierre Arniac, il nous a quitté depuis, qui était un grand connaisseur du blues devant l'éternel, m'a soutenu. Et moi, j'avais dit: mais non, attends, Nico Wayne Toussaint, non, c'est un garçon qui est de Pau, dans le sud-ouest, voilà, il n'est pas du tout américain. Il m'a dit: non, non, Marco, tu dis des conneries, voilà.
Non, je ne connaissais pas cette histoire.
Et donc, par la suite, il y avait une question que je voulais te poser par rapport à tout l'ensemble de ta discographie. Alors, c'est vrai qu'elle a permis beaucoup de rencontres. On te voit, j'ai essayé d'égrener toutes ces. Ces pochettes, c'est pas très radiophonique, mais on y reconnaît Neil Black, on y reconnaît Fred Chapelier, on y reconnaît les Foot Rivets, et puis toi, avec ton band, et par plusieurs fois, tu t'es remis en question, tu t'es remis en cause, tu as pris des risques, tu es sorti de ta zone de confort, notamment pour un album où tu enregistres en français. On reconnaît Michel Foison, dont certains ne savaient pas que tu jouais depuis des années avec, parce que pendant toute la période, Nico Wayne Toussaint Band, il était absent, en fait, à la guitare de ce groupe-là. Ben voilà, tout au long de toutes ces années-là, depuis 1997, on n'a pas arrêté de voir des facettes différentes de Nico Wayne Toussaint. Est-ce que tu as toi aussi ce recul-là, maintenant, en 2022?
Oui, et ça ne m'a pas forcément servi, en fait, parce que depuis mon premier album sur Dixie Frog, j'ai voulu imposer une touche française. Donc, j'avais pris pour habitude depuis 98 de mettre systématiquement deux titres en français dans mes disques, parce que je me disais: peut-être je joue du blues, j'essaie de le jouer aussi bien que des Américains, mais il n'y a aucun Américain qui écrira les chansons que je vais faire moi en français. Et donc, pour moi, c'était très important parce qu'au-delà, dans une dimension internationale, ça marquait aussi mon appartenance. Mais ça m'a souvent desservi, en fait, parce que les gens ont eu du mal à me mettre dans une
À
catégorie.
t'identifier peut-être, ouais.
Voilà, c'est ça. C'était très Chicago blues, mais des fois je les prenais à contre-pied avec des morceaux qui n'attendaient pas, et quand ils les entendaient, bah, ils adhéraient pas trop. D'autres personnes adhéraient beaucoup, mais moins à la partie plus anglophone. Quand j'ai sorti mon album en français en 2009, Blues entre les dents, les gens venaient au concert en s'attendant à un show ultra énergique, et l'album en français avait plus de morceaux d'ambiance, et donc les gens n'y trouvaient pas leur compte. Ça n'a pas été simple, en fait. Et c'est drôle parce qu'avec le temps, des années après, je reçois encore aujourd'hui parfois des messages de gens qui me disent « En fait, je réécoute Blues entre les dents, c'est magnifique. » Donc voilà, il faut aussi que le public accepte. Moi-même, en tant que public, j'ai été déçu parfois en allant voir des artistes parce que je les avais imaginés dans un cadre, et le rendez-vous qu'ils nous avaient fixé était dans un autre cadre. Donc je sais comment on peut être des fois pris à contre-pied en tant que public, et moi, je crois que j'ai assez régulièrement pris mon public à contre-pied, et je le remercie de m'avoir permis de le faire et de m'avoir suivi. Pour moi, c'est vital, en fait.
Je pense que malgré tout ce que tu dis, effectivement, pour expliquer tout ça, il y a quand même une identité. Alors moi, je parlais de différence, je parlais de prise de risque et de changement d'orientation, que ce soit musical, effectivement, tu évoques cet album, Blues entre les dents, et puis toutes tes collaborations. Mais tu restes le même, c'est-à-dire que tu restes fidèle, bien sûr, à cette éducation musicale que tu as et qui était forgée pour toujours. Et en même temps, voilà, on sait qu'on va avoir Nico Ben Toussaint sur scène. On sait pas forcément exactement à quoi s'attendre au niveau de la setlist. Je crois même que les musiciens non plus, d'ailleurs,
il me semble. Absolument.
Voilà, même quand tu annonces un place James Cotton, il n'y a pas que des morceaux de James Cotton, et fort heureusement, il y a aussi des morceaux que James Cotton a popularisés, et puis des choses plus personnelles. Enfin voilà, de toute façon, le contre-pied, c'est quand même aussi un peu ta marque de fabrique, quelque part, non ?
Oui, oui, oui. Et il y a quelque chose pour moi qui est vital, c'est de suivre mon instinct. Et la musique me le permet, donc pourquoi je m'en priverais ? Et mon instinct... c'est pour ça que la setlist, on a une setlist, bon, avec les cuivres, on a tendance à la suivre un peu plus, mais en même temps, elle reste malléable, mais on monte sur les scènes de nombreux festivals sans setlist, parce que je suis porteur de l'ensemble de ce que j'ai envie de dire, mais après, je vais l'adapter au public. Et mon groupe, on se connaît par cœur, comme ils disent, inside out, on se connaît à l'endroit, à l'envers, donc... ils peuvent me suivre dans l'instant, dans n'importe quelle direction où j'ai envie d'aller. Et ça, c'est un luxe hallucinant qui me permet d'être libre et qui nous permet aussi de ne jamais reproduire deux fois le même concert. Et ça, pour moi, c'est aussi vital. Je ne peux pas être honnête si je suis dans la reproduction.
Il n'y a pas cette angoisse de la part des musiciens de se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire après ?» Non, non, ça suit, ça, et puis ça déroule. Il n'y a aucun souci, effectivement, qu'il y ait une setlist ou pas. Quand on se connaît, et puis j'ai envie de dire aussi la musique, même si on aime bien aussi savoir où on va, tu parles de cuivre, ben, bien souvent ce sont les cuivres hein, qui ont les partitions, qui ont la piste bien propre, tout ça. Il y a peut-être un tout petit peu moins de liberté, peut-être que c'est dû aussi à leur éducation musicale plus jazz en général, là je parle en général, là, je ne parlais pas forcément de ta section de cuivre, mais voilà, on a tous des façons différentes d'appréhender la musique, que ce soit la façon de la jouer ou de l'écouter. Mais dans tous les cas, si on joue avec toi, que ce soit en tant que musicien titulaire ou en buffer, eh ben on suit quoi. Il n'y a pas de problème parce que toi tu sais emmener tes vraiment.
Bah c'est, je crois que c'est aussi la marque des leaders, c'est que ils ouvrent une voie, ils montrent une direction claire, nette, précise, et les gens du coup reconnaissent ce leadership. Et c'est vrai que parfois, il y a des nouveaux musiciens qui arrivent dans le groupe et du coup, ils réalisent que ça va pas forcément être comme c'était prévu. Et on leur dit, regarde, t'inquiète, suis les signes, ouvre tes oreilles et donne tout ce que t'as et ça va le faire. Et généralement, il n'y a pas de problème en fait.
Et alors, pour revenir à ta discographie, il y a une question piège que je voudrais quand même te poser, mais tu as le droit de la zapper. Après tout, on a le droit au joker aussi dans Sweet Home Chicago. S'il y avait une chanson, qu'elle fasse partie de ta setlist actuelle ou pas, que tu devrais retenir. Je sais que c'est très difficile, mais on va dire une chanson en français, allez, et puis une chanson en anglais, quelque chose que tu as créé ou quelque chose que tu as repris. Voilà, s'il y avait la chanson que tu devrais défendre et dire, bah, écoutez ça parce que c'est tout moi, ce serait laquelle ou lesquelles ?
En français, le public, je dirais, a souvent plébiscité une chanson que j'avais faite en 98 dans mon premier disque, qui s'appelait Give Me a Kiss. Et en même temps, c'est drôle parce que j'avais maquillé la chanson avec un titre anglais parce que le refrain était légèrement en anglais, mais le cœur de la chanson était en français. Il y avait des images, c'était très imagé, un berger d'escargot, tout ça. Et ça a toujours beaucoup, beaucoup parlé aux gens, cette chanson. Je la fais plus du tout depuis longtemps, mais c'est une chanson qui, je pense que s'il y en avait une seule en français, ce serait celle-ci que les gens conservent.
J'abattrai des montagnes, j'atteindrai des sommets. J'irai chercher des palmiers dans des îles très éloignées pour toi. Pour toi.
En anglais, c'est compliqué parce qu'il y en a énormément. Je suis content de différentes chansons que j'ai écrites dans le projet que j'ai enregistré en duo avec Michel Foison. Notamment une chanson qui s'appelle Go on Greyhound, que j'ai réenregistrée tout seul justement. Dans un album que je vais sortir là en solo.
Et effectivement, et dont on va parler.
Et c'est une chanson après. qui m'est vraiment à cœur parce que ce n'est pas un rythme de blues, c'est un rythme que j'ai trouvé moi-même et qui est très influencé par des grooves marocains quand on est allé jouer dans un festival trans-saharien au Maroc à deux reprises. C'est une dimension comme ça de la trance et de la tourne qui m'a beaucoup habité. En même temps, ce sont des images de voyage en bus que j'ai réellement vécu et des images que j'ai, de choses que j'ai vues. Et voilà. Donc, c'est une des chansons dont je suis très heureux.
Go on Greyhound, qui figurait effectivement sur cet album avec Michel Foison, qui s'appelait On the Go, sorti chez Lucky Frog en 2014. Et voilà, c'est ça qu'on entend derrière, non?
Ouais.
A woman I once loved played me for a fool. Go on Greyhound, go on Greyhound, go. Go on Greyhound, go on Greyhound, go. Go on Greyhound, go on Greyhound, go. go on, go on.
On aura l'occasion d'écouter ces titres qui émaillent tout ce nouvel album Burning Light, qui fait suite donc à ce tribute James Cotton que tu avais enregistré en 2017, sorti en 2018 chez Dixie Frog Records. Et là, tu reviens avec un album, et là encore, tu vas surprendre ton public, tu vas surprendre tes fans avec ce disque Burning Light qui sort ces jours-ci, sorti officiel, je crois, le 15 mai, c'est ça, Nico ?
Voilà, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cet album ? Est-ce qu'il doit sa naissance à l'existence du confinement, comme pour beaucoup de musiciens ? Est-ce que ça a été l'occasion à créer d'une façon différente pour toi ?
Eh bien, ce disque, c'est vrai, il a trouvé un développement très particulier grâce au confinement. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, il est venu, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, la guitare. Je suis, avant d'être amoureux de l'harmonica, je crois que j'aime le blues qui est joué à la guitare. Parce que la guitare et le chant sont deux choses qui se conjuguent à l'infini dans le blues. Et avec un dépouillement qui laisse la place à des... disons qu'il ne met pas en avant la technique de prime abord. Qui met en avant l'émotion, qui met en avant la façon dont la voix et la guitare s'entremêlent. Et là, je pense pleinement à Johnny Hooker, bien sûr. Je pense aussi à Lenny Hopkins. Et si tu veux, je pense aussi à Louisiana Red. Ce sont vraiment des gens qui m'ont habité du moment où j'ai découvert leur sonorité, leur son, quoi. Après, je suis devenu harmoniciste et je me suis éclaté à l'harmonica, mais j'ai développé mon jeu d'harmonica pour concurrencer le phrasé de Rax Lacour, avec lequel j'ai travaillé pendant 10 ans, qui était très influencé d'Albert Collins. Et il envoyait des pics comme ça sonores à la Albert Collins, et moi je me disais, comment est-ce que je peux chorusser derrière Rod Piazza ? C'est moins efficace en fait. Parce qu'il faut un coup de poing. Rod Piazza, c'est pas un coup de poing. C'est monstrueux, c'est beau. Et donc, le seul harmoniciste qui, pour moi, envoyait des coups de poing aussi percutants que les notes de guitare d'Albert Collins, c'était James Cotton. Et du coup, j'ai vraiment développé mon jeu d'harmonica en concurrence, en quelque sorte, à l'efficacité de la guitare. Mais je peux chanter des chorus de Albert King par cœur, de Albert Collins par cœur, de B.B. King par cœur, parce que je les ai écoutés, je les ai intégrés en fait. Et donc pendant 30 ans, j'ai regardé des gens à côté de moi faire ces chorus, se rapprocher plus ou moins de ces sonorités. Parfois même, et beaucoup, nos discussions sur comment est-ce qu'on arrive à faire sonner, comment est-ce qu'on se rapproche, quel micro, quelle guitare, Florian Royot, qui est l'un des maîtres du son, je trouve, qui peut développer des sonorités, une palette sonore incroyable avec la même guitare. On en parlait, je dis, mais comment tu fais pour avoir ce son d'un seul coup là avec... Et donc, tout ça, si tu veux, je l'ai entendu et je l'ai retenu. Enfin, du moins, j'ai essayé de le retenir. Un an avant le confinement, j'ai acheté une guitare métallique, une tricone, qu'on appelle une tricone. C'est un peu comme la guitare de Mark Knopfler dans Brothers in Arms, tu vois, cette guitare métallique comme ça.
Les gens appellent parfois à tort le dobro.
Voilà, c'est ça. Alors, donc, le dobro, c'est une marque. Bon, mais la mienne est totalement en métal. Et bon, j'ai eu l'occasion de l'acheter. En plus, dans mon parcours, j'aime beaucoup observer des signes. Et un jour, j'ai acheté mon premier ampli à un type qui vendait cet ampli dans les Landes. Et c'était en 80, t'imagines, en 80... 12 ou 13. Et sur le bon coin, je vois cette guitare, j'en ai vu plusieurs. Finalement, les autres, je les ai pas achetées, j'ai pas pu aller les voir, etc. Puis cette guitare, je la vois, j'appelle le gars, et le gars qui la vendait, c'était celui à qui j'avais acheté mon ampli 30 ans avant, quoi.
Ah oui.
Donc quand je suis allé acheter cette guitare, je me suis dit, tu te rends compte que j'ai acheté mon premier ampli auprès de toi, c'est l'ampli que j'ai amené au Petit Jean de Montparnasse pour jouer avec Luther Allison, et il m'a lancé cet ampli. Et aujourd'hui, je viens investir dans une guitare qui peut-être pourrait être patte-doigt, un nouveau carrefour dans ma vie, et c'est à toi que je l'achète, quoi. Et donc, c'est fou. J'aime beaucoup ces petits parallèles que peut-être je suis le seul à voir, mais pour moi, ils ont une résonance très très particulière. Le fait est que j'ai acheté cette guitare et qu'ensuite, aux États-Unis, j'en ai acheté une deuxième, une Supro, voilà, et que ça m'a lancé en quelque sorte. Et là-dessus, le confinement est arrivé et j'ai eu du temps pour travailler les sons, pour m'amuser, pour travailler un peu la technique, pour aller vers la guitare en quelque sorte. Alors d'abord, je l'ai accordé dans l'accordage de Albert Collins parce que je voulais un accordage qui simple en fait. Je voulais, ouais, c'est un espèce d'open tuning un peu particulier. Et donc j'ai commencé à essayer de reproduire Albert Collins parce que je me dis c'est l'attaque, c'est le son, et en même temps c'est pas grave s'il y a d'autres notes qui vibrent parce que c'est un open, donc ça sonne en fait, ça marche. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup pouvoir m'accompagner avec les basses mortes et que le 4e degré, quand on joue un blues en mi, on l'a sur la deuxième corde grave. Et là, avec l'open, on l'a plus. Du coup, je suis revenu sur un open. Donc, si tu veux, j'ai eu besoin de faire mon cheminement à travers la guitare. Pas comme un guitariste normal qui prendrait une guitare normale et qui apprendrait normalement les positions. Moi, j'ai cherché immédiatement à obtenir un résultat. Et ensuite, il y a eu le travail sur le son qui m'a été facilité. Si tu veux, je sais les sons que je voulais, mais j'arrivais pas à trouver l'ampli qui me permettait d'avoir ces sons. Et 15 jours avant d'enregistrer mon disque, je suis allé au magasin, la Silver Wolf à Pau, et j'ai essayé différents amplis qu'ils avaient. Et j'ai trouvé un Lanné, là, que j'ai acheté, le Cube R12. Pour le citer, qui est un petit ampli à lampe et avec lequel j'avais tous les sons que je voulais. Et donc à partir de là, très vite j'ai trouvé ce que je voulais et très vite je me suis dit ben maintenant je peux aller en studio en fait. Ça semble un peu prétentieux, non, mais c'est comme ça. Et comme je te dis, pour moi c'est vital de suivre certains appels, quoi. Quand j'étais en Guyane, j'étais sur le point d'abandonner la musique. Et puis, dans la solitude de la Guyane, je ne faisais pas du tout de musique. J'ai eu cet écho de faire un album hommage à James Cotton. Et quand je suis rentré, alors que je devais tout arrêter, tout est reparti. Et là, ce qui était vital, c'était pas de... J'avais pas d'idée pour mon groupe, mais ce qui était vital, c'était... Il y avait un appel profond qui était vers ce projet solo. Donc, je l'ai fait.
Living on a highway, nowhere that I can call my home. Living on a highway, nowhere that I can call my home. A sweet girl of mine, she sure feels to be left alone. Living on the highway, I take my van to be my home. Living on the highway, I take my van to be my home. I've gotta make a living, so down on the road I'm going. I got a mind to travel, people, and I have a mind to stay. I got a mind of trouble, and I've got a mind to stay. One side of me say go, Nico, go. The other don't wants to move away. Thank you. woman, I make you wait. Living on the highway, I know I make you wait. But I swear that someday, darling, I will be home to stay.
Voilà, et cet album, sur la pochette duquel tu poses avec cette fameuse guitare supro, s'appelle Burning Light. Nico Wayne Toussaint, Burning Light, seul en studio, en format guitare harmonica à voix. Et à l'intérieur de cet album, on peut découvrir 13 titres, dont la moitié de ton répertoire original, et puis également d'autres, une autre moitié des nouveaux morceaux, des anciennes compositions, et puis des nouveaux morceaux originaux. Pas de reprise du tout dans ce
voilà.
Pas de reprise d'autres artistes, du Nico Wayne Toussaint, du début à la fin.
Voilà, et ça j'en suis très heureux parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi.
C'était un parti pris de faire un album uniquement de compositions, tout en jouant dans l'esprit de ces bluesmen comme la Dean Hopkins, Louisiana Red. C'était un pari pour toi, tu aurais pu te permettre une ou deux reprises, pourquoi pas?
Parce que je le fais tout le temps. Et là, après 30 ans de carrière et 14 albums, je me suis dit que j'avais suffisamment de matériel personnel pour sortir mon disque de A à Z. Voilà.
Très bien. Et donc, ces nouveaux morceaux qui se mêlent aux anciennes compositions, tout ce recueil, là, tu le destines à ton public, bien sûr, celui des concerts. Mais alors, moi, j'ai une question tout de suite qui me vient à l'esprit. L'album sort mi-mai 2022. Pour l'instant, y a-t-il un distributeur, y a-t-il un label qui s'intéresse à la distribution de ce Burning Light, Nico?
Non, je pense que je le sortirai seul. Je l'ai fait écouter à Philippe Langlois, qui l'a beaucoup apprécié. Et bon, il aurait été encore aux manettes de Dixie Frog, il l'aurait sorti. Mais là, Dixie, actuellement, est dans une autre projection de sortie de disque. C'est beaucoup plus accompagné, beaucoup plus étalé, organisé. Et ce disque-là, je voulais le sortir là maintenant. Pour moi, c'est pas un disque qui... C'est un disque... C'est une photo. C'est trop frustrant de sortir un truc, d'enregistrer quelque chose et que ça sorte un an et demi après. Ça n'a aucun sens. Le confinement a déjà obligé beaucoup de musiciens à différer les sorties de leur disque. Et je sais combien c'est frustrant. Donc moi, quand je fais des trucs aussi, faut que ça aille assez vite, en fait. Donc là, ça s'est pas goupillé avec Dixie Frog et j'ai pas envie d'aller taper à toutes les portes de tous les disquaires possibles en leur demandant et en attendant. Non, je le sors, voilà.
Très bien, et puis tu te donnes les moyens. Dans tous les cas, c'est ce que tu as toujours fait. Tu t'es donné les moyens de tes ambitions et de ce que tu veux faire et de ce que tu voudras faire. Parce que on va imaginer, allez, on est en 2024, 2025, un nouvel album encore de Nico Wayne Toussaint pourra sortir chez Dixie Frog, pourquoi pas?
Oh oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, oui, tout est totalement ouvert, bien sûr.
Alors cet album, tu le destines à qui en particulier? Est-ce que tu le dédicaces à tes plus vieux fans? Est-ce que tu le dédicaces aux gens qui s'intéressent à toi depuis peu? Est-ce que tu le destines à des gens qui sont uniquement musiciens? Est-ce que c'est un album tout public, Nico, pour toi?
Alors, je pense que c'est un album tout public, d'autant qu'en plus, j'avais des chansons que j'aurais pu inclure dedans qui étaient dans un autre registre, et j'ai fait le choix cette fois-ci de les exclure pour garder une homogénéité autour du blues, totalement. Et pour être vraiment, pour que ce soit un disque où il n'y ait pas un truc où, tu sais, une pierre dans la chaussure où dit, ah, tiens, c'est bizarre ça. Je l'aurais pas mis là, ou tiens, je m'y attendais pas, bon, pourquoi? Ah ouais. Donc là, j'ai choisi ce répertoire vraiment pour être en accord total avec l'idée de départ. Et tu connais Hugues Catalan, qui est un guitariste avec lequel Neil Black a beaucoup tourné. Et je me souviens une fois avoir eu une discussion avec Hugues. Et je lui avais dit un jour, j'aimerais arriver à faire un disque où j'aurais composé les chansons pour que les gens l'écoutent quand ils sont en voiture. Un disque qui s'écoute précisément dans les longs trajets. Et donc, on en avait discuté comme ça, puis voilà. Et donc, ce disque-là n'a pas été conçu pour ça. Mais en réalité, oui, il y a une homogénéité, il y a un suivi, il y a un tracklist, il y a un séquençage. Combien de temps est-ce qu'on laisse entre une chanson et l'autre? Est-ce que c'est une seconde de plus ou une seconde de moins de silence pour l'enchaînement, parce que pour moi, c'est un disque qui peut s'écouter bien en voiture, qui permet le voyage intérieur.
Une petite parenthèse sur une partie du répertoire, Nico, de cet album Burning Light, avec la toute dernière plage qui s'appelle Tribute to John Campbell. Tiens, on va en écouter juste l'intro, si tu veux bien. ¶¶ Techo là dans l'ampli. Tu utilises quel ampli précisément sur ce titre?
Le Lanet.
Et donc John Campbell, pourquoi John Campbell? J'aurais pas forcément parié sur un titre en hommage à John Campbell. J'aurais plutôt vu peut-être, je sais pas, un truc pour la mémoire de Lightning Hopkins par exemple. Qu'est-ce que ce garçon t'a fait le long de la colonne vertébrale quand tu l'écoutais?
En fait, John Campbell, c'est très drôle parce que un jour, il y avait un festival qui allait accueillir un bluesman. Et donc, je vais au disquaire du coin, c'était en 92, à Saint-Jean-de-Luz. J'achète le disque de John Campbell. Et donc, j'écoute ça et je me dis, purée, c'est vachement rock en fait. Bon, ok, c'est pas mal, mais c'est assez rock. Et en fait, l'artiste qui venait, c'était Eddie C. Campbell. Donc, j'avais confondu Eddie C. Campbell et John Campbell. Enfin, je savais pas, je connaissais ni l'un ni l'autre. Donc, un bluesman qui s'appelait Campbell, ben, le gars, il m'avait sorti ça. Et en fait, d'une mauvaise surprise au départ, j'ai beaucoup apprécié la musique en fait de ce gars-là. Cet aspect rock'n'roll aussi qu'il y a dans sa musique. Et j'ai été un grand fan du deuxième album qui est sorti, qui s'appelle peut-être Saddle My Pony, qui est son deuxième, et ensuite il n'en a pas fait d'autres, il est décédé. Et dans ce deuxième disque, il y avait tous ces climats, il y a trois chansons, When the Levee Breaks, Like Wolves Among the Lambs, et Saddle My Pony, où il joue du slide comme ça, et avec ce phénomène de tapping, tu sais, ta-ta-ta-ta-ta-ta, et cette réverb et tout. Et donc, moi, j'ai joué cette chanson comme ça dans le studio, et j'avais pas du tout réécouté. J'ai joué en fait ce truc sur mes souvenirs de ce que j'avais ressenti à l'écoute de ces chansons. I think somebody man is trying to put a spell down on me. I think somebody man is trying to lay a spell down on me. Et c'est une fois que tout était enregistré que je me suis dit, tiens, voyons comment ça fait en fait. Et je suis retourné écouter les originaux. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup moins de reverb chez John Campbell, il n'y a pas de tremolo. Enfin, c'est très différent en fait. Mais pour moi, c'était mon souvenir des ambiances que j'entendais planantes, très très planantes, dans le slide de John Campbell.
Et tribute to John Campbell qui close cet album Burning Light qu'on va écouter en entier tout à l'heure dans Sweet Home Chicago. J'ai relu sur ton site quelques mots que Bruce Iglauer, le patron d'Alligator Records, avait écrit à propos à l'époque de Nico When Toussaint Played James Cotton, où il disait tout le bien qu'il pensait de cet album. Comme on le sait, Alligator Records n'enregistre guère d'artistes étrangers aux États-Unis puisqu'ils préfèrent promouvoir des gens qui jouent sur scène aux États-Unis. Mais je voulais quand même savoir si tu avais fait écouter cet album à Bruce ou si tu allais le faire.
Non, je ne l'ai pas encore envoyé. C'est possible.
C'est possible. Et donc, tu as toujours besoin d'avoir ces oreilles extérieures comme ça, de dire, attends, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que quelque part je vais dans la bonne direction? Tu apprécies particulièrement d'avoir ces avis extérieurs, que ce soit des gens qui s'intéressent de très très près à la musique, comme peut le faire Bruce depuis plus de 50 ans, et d'autres. Qu'est-ce que tu attends des gens qui vont écouter ton album avant leur sortie, d'une manière générale, Nico?
Alors, si tu veux, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement impatient. Donc, si j'envoie mon disque et que j'ai pas de retour, je vais vite tourner la page parce que ça va prendre trop de place dans mon esprit. Donc, en même temps que je suis prêt à me laisser influencer ou à recevoir des critiques, il faut qu'elles arrivent très vite, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais si elles n'arrivent pas ou si elles tardent à arriver ou si elles me plaisent pas, je suis prêt à les recevoir, mais il faut que ça vienne vite, quoi. Je déteste me remettre à attendre le bon vouloir de quelqu'un. Donc ça, c'est sûr, c'est 30 ans d'indépendance musicale aussi qui font qu'on choisit les moments où on accélère. Donc quand j'accélère, j'ai envie que ça accélère avec moi, et si ça marche pas, ça m'énerve. Donc en même temps, j'ai envoyé ce disque aussi à un autre label américain qui comptait beaucoup pour moi parce qu'ils ont sorti un album de Louisiana Red qui est pour moi un album légendaire et qui m'influence énormément. Et j'ai pas eu de retour, tu vois. Enfin, je sais qu'on a beaucoup échangé, mais depuis qu'ils ont eu le disque, j'ai pas eu de retour. Donc je me dis, bah, peut-être ça leur plaît pas. Dans ce cas-là, qu'ils me le disent, ou ils savent pas, c'est pas forcément facile à dire quand on n'aime pas quelque chose. Mais oui, oui. Au bout d'un moment, en fait, je m'en fous. Tu vois, l'âge que j'ai,
tourne la page assez vite.
Je m'en fous en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est que je sois content de ce que je sors. Là, on bataille avec le master, je suis pas content. Finalement, j'ai dû mettre un peu les mains dedans. Et là, maintenant, je vais être satisfait. Eh ben, j'espère que l'ensemble de la profession sera satisfait, le public, que les gens découvriront, qu'ils apprécieront le disque. Mais il y a un moment, il faut être convaincu soi-même de ce qu'on fait, et au-delà des adoubements des uns et des autres, quoi.
Évidemment, et le fait d'être exigeant avec soi-même, comme toi tu l'es depuis tant d'années, tu l'es également de façon légitime avec les autres, avec ceux qui travaillent avec toi. Je pense peut-être à l'ingénieur du son qui a mis au point ce disque avec toi. Je peux penser aussi aux ingénieurs du son sur scène. On l'a encore vu récemment au Sous-Bock. Tu ne laisses rien au hasard. Il faut que ça tourne naturellement, mais ça se fait aussi avec des conditions techniques que tu dois parfaitement maîtriser. Ça, on le comprend tout à fait. Et je vois, tu accordes énormément d'importance à ça, parce que la qualité d'un album, la qualité d'un show, ça repose aussi sur la technique, malgré tout.
Ah bah oui, bien sûr, c'est capital. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a une telle plage d'interprétation du son par les techniciens que... J'aime beaucoup, par exemple, travailler avec Alain, comme on a travaillé ici au studio Célestine de Pau, parce que quand on rencontre un ingé son, le résultat, c'est un peu l'accouchement, c'est le fruit du musicien qui arrive avec tout ce qu'il a à dire, tous ses instruments, tous ses trucs, et d'une paire d'oreilles qui va, avec du matériel plus ou moins abondant, répercuter ce son, le transmettre. Et donc, l'ingé son a une part capitale, en réalité, dans la transmission de ce que le musicien a espoir que les gens entendront. Ça passe par le trait d'union de l'ingé son. Et donc, il y a un moment où l'ingé son n'est pas le musicien. Et autant qu'on veut l'influencer, il y a un moment où il faut accepter qu'il y a une part du résultat final qui échappe au musicien. Parce qu'elle appartient justement aux oreilles, à la sensibilité de celui qui est derrière les manettes. Et j'aime beaucoup cette alchimie. J'aime beaucoup cette alchimie. En fait, j'ai fait, une quinzaine de disques, enfin 14. Et en réalité, j'ai utilisé trois ingé-sons principaux. Parce que pour moi, c'est une histoire, peut-être pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire humaine que l'on partage avec un ingé son. Le premier ingé son avec lequel je travaillais, c'était Brad Moe. On a fait trois disques ensemble. Et ensuite, ça a été Thierry Ousti. Et on a fait deux ou trois disques ensemble. Et ensuite, ça a été Amanita, un studio à Anglette. Et on a fait deux disques ensemble, même un troisième que j'ai produit pour un autre artiste. Et finalement, avec Alain Brunet, on en est à notre deuxième. Donc, il y a une histoire forte qui se joue, je trouve, dans la rencontre entre un ingénieur du son et un artiste.
Et donc, c'est également vrai, tu l'as dit, pour ce disque qui sort ces jours-ci, Burning Light. Moi, je me suis permis d'écrire à propos de ce disque, ouvrez les guillemets, un Nico intimiste et diablement blues jusqu'au bout de l'âme, artiste complet à redécouvrir sous un jour nouveau dans un disque hanté, fermez les guillemets. J'aurais pu aussi dire à la guitare, mais ça, les gens vont s'en rendre compte immédiatement. Tu joues également de l'harmonica dans ce disque, Nico ?
Oui, oui, oui. En fait, j'ai choisi de ne pas en jouer au porte-harmonica comme la plupart des harmonicistes font quand ils jouent guitare harmo, parce que l'harmonica reste mon instrument phare, et en jouant au porte-harmonica, je réduis beaucoup mon expressivité physique, et ça fait partie de mon show, et je réduis aussi beaucoup mon amplitude technique. Donc, j'ai opté pour une autre façon de travailler, c'est utiliser la guitare avec un looper, et donc quand je veux utiliser l'harmo, ce que je fais pas sur tous les titres, j'enregistre grâce à cette pédale une partie de guitare que je laisse tourner ensuite, et comme ça je peux me débarrasser d'une façon, manière de parler, de l'instrument, de la guitare en elle-même, pour m'exprimer à 100% à l'harmonica, comme quand je suis en duo ou avec Michel ou quand je suis en groupe. Et donc je peux vraiment me laisser aller, m'abandonner physiquement au mouvement que j'aime incarner quand je joue, à mes idées, à avoir mes deux mains pour pouvoir fabriquer le son aussi, sculpter le son acoustique de l'harmo, ce qu'on ne peut pas faire quand on joue au porte-harmo. Donc j'ai choisi une façon qui n'est pas totalement académique et traditionnelle, mais voilà, c'est l'option que j'ai choisie.
Nico, et tout ça, est-ce qu'on aurait pu imaginer que, par exemple, au cours de ce concert que tu nous as donné au Sous-Bock, ou la veille à Calais, parmi tout ce répertoire dédié au big band et à la musique de James Cotton, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, tout le monde descende de scène sauf toi et que tu nous proposes un ou deux titres de ce nouvel album ?
Et oui, on aurait pu l'imaginer. Je me souviens d'avoir vu, il y a très longtemps de ça, au Blues Saloon, justement. J'avais vu Charlie Musselwhite faire ça. Et tu vois, c'est drôle parce que là, maintenant, il sort un album en solo à la guitare. Enfin, je ne sais pas s'il est en solo, mais en tout cas en tant que guitariste sur Alligator. Mais je l'avais vu faire ça il y a 30 ans au Blues Saloon. Et je m'étais dit, ah ok, donc voilà le moment où il nous fait subir qu'il joue un peu de guitare, quoi. Tu vois, vraiment, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Parce que je trouve que moi, par exemple, installer un concert à la guitare, l'énergie, la dimension qui est dégagée quand je joue de la guitare est très très différente de celle que je dégage quand je suis 100% harmoniciste, qui plus est avec le big band. Donc venir comme ça proposer deux morceaux totalement hors contexte pour montrer que j'en joue, non, ça, je vois pas trop l'intérêt.
D'accord, et pas forcément pour montrer que tu en joues, mais au moins pour expliquer, voilà, que il existe cet album. Est-ce que tu as prévu des dates, des concerts dans des endroits peut-être à la jauge plus réduite où tu proposeras ce répertoire précisément, Nico?
Alors ça va se faire au fur et à mesure. Ça va se construire plutôt à partir de la rentrée, je pense. Mais je le joue déjà. De toute façon, depuis l'été dernier, je joue déjà seul. Et donc on va développer avec KBKC la structure avec laquelle je travaille et Christelle Boyer, on va développer une série de concerts promotionnels autour de la sortie de ce disque, ouais.
Très bien. Eh ben écoute, voilà, on va continuer à te suivre, bien sûr. Je suppose qu'il faut toujours aller voir sur nicowaynetoussaint.com pour toutes ces informations.
Exactement, là, je suis dans un rafraîchissement total de mon site. Et donc, d'ici ce soir, je pense que toutes les dates à venir seront mises à jour.
Il y a déjà, en tout cas, la pochette de ce nouvel album à paraître ce mois-ci, mai 2022. Nico Wayne Toussaint Burning Light, seul en studio, format guitare, harmonica, voix. Si vous aimez, si vous connaissez déjà, ou si vous voulez découvrir Nico Wayne Toussaint sous un nouveau jour, en tout cas, bien, ne manquez pas la sortie de ce disque Burning Light, dont de larges extraits sont prévus, programmés dans les prochaines émissions également dans Sweet Home Chicago. Nico, est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser à laquelle tu aimerais tout de même répondre?
Non, mais moi j'en ai une pour toi.
Ah, dis-moi.
Qu'est-ce que tu as pensé du disque puisque tu l'as entendu en entier et un peu en avant-première?
Je l'ai entendu en entier et j'ai fait plus que l'entendre. Je l'ai écouté attentivement en entier. Je me suis repassé encore des boucles ce matin avant de venir te parler pour préparer cette émission. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très complet. Et l'adjectif qui me vient en premier pour qualifier ce disque, c'est le mot sincère, Nico.
Ben c'est bien.
J'ai trouvé que c'était un album sincère, voilà.
C'est très bien. Tu sais, quand on finit un disque, je pense que tous les gens qui réalisent des disques sont un peu ont la même sensation. Quand on finit un disque, on se dit, quand il est fini, tu vois, quand on a réussi à le conduire jusqu'au bout, pendant un moment, on se dit, bon, ben je peux mourir tranquille.
Et c'est le cas de cet album.
Voilà. Moi. En tout cas, merci pour ton invitation, parce que tu connais toujours ton sujet, et ça m'impressionne la perspicacité de tes questions, et tu obliges les interviewés à se livrer à des réponses également très personnelles et sincères.
Bah écoute, je ne sais pas si je t'ai obligé à quoi que ce soit, Nico. Enfin, en tout cas, merci pour les auditeurs qui ont permis peut-être de connaître encore davantage de facettes de ton art et puis de ta culture musicale et de ton parcours. En tout cas, merci pour tout ça. À chaque fois, c'est un réel plaisir. La dernière fois, on s'était croisés au Sous-Bock. La fois d'avant, c'était à Jazz sous les pommiers à Coutances. Il ne manque jamais de venir régulièrement en Normandie. Et puis, bah, quand on voyage, on peut se voir ailleurs également. On espère que tu pourras défendre ce disque et le reste de ton répertoire sur toutes les scènes de France et de Navarre. Et puis la Navarre, c'est pas loin de chez toi, d'ailleurs.
Ah, on est en Navarre.
C'est ça, c'est l'idée. À très bientôt, Nico. Merci pour tout ça. On va continuer, nous, de notre côté, très humblement, à défendre ton disque Burning Light, qui est vraiment une franche réussite. Merci pour tout ça.
Merci, Marco. Merci à tous.
Blues, don't come hanging around my door. Around my door, blues, don't come hanging around my door. I got my whiskey and my gin, and I don't want nothing more. Blues, leave poor me alone.
Merci à Nico Wentoussin et rendez-vous la semaine prochaine, le 21 mai, avec le deuxième volet des souvenirs de Jean-Pierre Vignola. Salut, bye bye.